Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez tous bien. Eh, ma présence, comme disait l'autre. On va faire une lecture de Corinthiens 12, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, en effet, comme le corps est un, parce que Paul dit que nous sommes le corps de Christ. Actuellement, sur la terre, nous sommes le corps de Christ. Et lui, il est la tête. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un même et d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en dirait qu'il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tout c'était une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, ainsi que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Amen, c'est une lecture, c'est une très grande valeur. Quand Jésus est venu sur la terre, l'Esprit de Dieu était en lui. Et d'une façon, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, il était aussi grand, aussi puissant que quand Jésus a commencé son ministère. C'était Dieu dans un homme, mais c'était qu'un bébé. C'était le corps d'un bébé qui empêchait l'esprit de pouvoir se manifester. Et quand il a grandi, c'était qu'un enfant, puis c'était un adolescent aux yeux des gens. Par contre, son esprit était grand et puissant, il était Dieu dans la chair. Mais sa chair, son corps, n'était pas crédible aux yeux des gens. Bon, il a juste impressionné les pharisiens, les religieux dans le temple quand il avait 12 ans. Mais c'est un épisode tout à fait particulier. Dans la tradition juive, un enfant, à 13 ans, il a la majorité, il fait sa bar mitzvah, comme on dit. C'est-à-dire, il est reconnu comme responsable de ses actes devant Dieu. À partir de 13 ans, il est adulte spirituellement, si vous voulez. Mais bon, il n'y a pas toute la sagesse nécessaire, n'est-ce pas, pour devenir un rabbin. Et selon Lévitique 4, 34 à 35, vous lirez ça chez vous, il ne pouvait pas accomplir un service dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire dans le temple, dans le tabernacle. Il ne pouvait pas, avant l'âge de 30 ans. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il ne pouvait pas être considéré bibliquement comme un rabbin avant ses 30 ans. Mais avant ses 30 ans, l'Esprit de Dieu était en lui quand même. Maintenant, nous sommes le corps de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne, on vient de le lire. Jésus s'est incarné dans un corps immense. Jésus vit dans les cœurs et dans les intelligences de millions de personnes aujourd'hui. Et pour travailler sur l'humanité, Jésus, notre maître, a besoin d'un corps collectif. Il y en a un qui est l'œil, l'autre qui met l'oreille, l'autre qui met le pied, etc. Tel de ses disciples est la bouche de ce corps, tel autre est le cerveau, tel autre est le cœur, tel autre est l'estomac, ou les poumons, les bras, les jambes, les ongles, enfin bon. On a tous une fonction dans le corps de Christ. Et tant qu'il ne peut pas animer ce corps collectif sur la terre, notre maître, Jésus, est petit. Il est petit, il est faible, il est chancelant. Son esprit arrive difficilement à exprimer l'étendue de la sagesse de son amour et de sa puissance. Si son corps sur la terre est un corps de bébé, une église de bébés, de gens qui ne prennent pas de responsabilité, qui ne sont pas crédibles.
Oh bon.
L'Esprit Saint de Jésus fait donc l'effort pour s'incarner en nous, le corps collectif d'une communauté spirituelle, afin qu'elle ne cesse de développer sa puissance et de l'exprimer de façon grandiose qui frappe les gens, qui rendent un bon témoignage. Mais ce corps collectif doit, en retour, faire autant d'efforts pour permettre à l'esprit du maître de Jésus de se manifester en lui, par lui. Alors je vais vous dire une chose choquante. Au lieu de rester fixé sur le corps de Jésus sur la croix, comme beaucoup de chrétiens font, un disciple de Jésus doit avoir pour unique préoccupation de devenir un membre purifié et lumineux de ce corps collectif que Jésus cherche à animer sur cette terre. Il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié, c'est un fait. Mais il est ressuscité et il veut vivre en nous par son esprit. Et c'est à nous de renforcer le corps de Christ pour que son esprit continue à travailler puissamment dans le monde. On va lire Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10, vous connaissez tous Ésaïe 53, c'est le passage où Ésaïe prophétise la mort de Jésus, ses douleurs, son sacrifice. Et au verset 10, il dit « Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. » Jésus prolonge ses jours parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est la tête de son corps qui est sur la terre et il prolonge ses jours au travers de nous. Quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En fait, il n'a pas vraiment quitté la terre. Il a quitté la terre physiquement, mais il vit toujours par nous, son corps, son Église. Malheureusement, ceux qui se disent chrétiens n'ont pas manifesté l'Esprit Saint de Jésus tout le temps. Et encore aujourd'hui, il y a des choses. Les chrétiens ont fait, par exemple, d'interminables guerres aux musulmans pour défendre le tombeau de Jésus. On appelle ça les croisades. Ne grattons pas trop pour savoir si c'était seulement le tombeau qu'il cherchait à défendre ou s'il voulait s'approprier cette terre. Gardons pas trop. Ils avaient sans doute des buts un petit peu moins spirituels, n'est-ce pas? Pardon d'être méfiant, mais bon. Depuis 2000 ans, les chrétiens font des pèlerinages en Terre Sainte, mais la présence de Jésus n'imprègne plus ces lieux. Je dis pas que c'est mal d'y aller. Moi, je voulais pas y aller. Et un jour, on a reçu des visites, le frère et la sœur en avant, et puis ils nous ont dit qu'ils avaient déjà été 12 fois en Israël, que c'était merveilleux et tout, et ils m'ont demandé si on y avait déjà été, j'ai dit non. Ils me disent, mais pourquoi? J'ai dit, mais parce que moi, je gardais d'Israël mon image de l'Israël du temps de Jésus, ça m'embêterait de voir Jérusalem avec des paraboles sur les H&M, des voitures, des taxis, je n'ai pas envie. Alors il était choqué et le lendemain, il me dit, Michel, on a discuté cette nuit avec ma femme et on a décidé, on vous offre le voyage, on vous offre tout, on paye tout, on prend tout en charge, mais on veut que vous alliez en Israël. Ils ont bien... C'était vraiment super gentil et on a passé un temps formidable là-bas. En Israël, on y est allé et puis comme tout le monde, comme tous les chrétiens, enfin je pense... On a rapporté quelques cailloux, un petit peu de terre, qu'on a pris là-bas au milieu des lamentations. Enfin bon, voilà, c'est... Mais j'ai fait ça avec amour, avec respect pour Jésus qui a marché sur cette terre. Mais il faut avouer quand même que les touristes se comportent de façon souvent choquante en Israël. Leur attitude ne préserve pas le caractère sacré de cette terre. On a vu l'hystérie idolâtre, à un point que des femmes qui se roulaient par terre sur une pierre ou soi-disant Jésus, enfin bon. Si vous souhaitez vraiment visiter les lieux saints, entrez en vous-même, parce que c'est là un lieu saint, parce que Jésus vit en vous. Si vous voulez vraiment visiter les lieux saints, allez visiter vos frères et sœurs, parce que c'est là que Jésus vit, en eux. Voyez? Tous les endroits où Jésus a marché ont été profanés par l'idolâtrie, par le commerce. Il faut aller sur la terre des vivants pour rencontrer Jésus, là où sont ceux qui vivent par l'Esprit Saint de Jésus. On va lire dans le psaume 116:9, voilà ce qui est écrit. « Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. » La terre des vivants, c'est la terre de ceux qui vivent, qui ont la vie. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas l'esprit de Jésus, qui n'ont pas la vie, Jésus dit, sont morts. Et on dirait qu'ils vivent, mais ils ne font qu'exister, ils ne sont pas vivants. Nous marchons sur la terre des vivants, c'est-à-dire là où sont les chrétiens, là où sont ceux qui ont Jésus en eux. La terre des vivants, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, comme dit Jésus dans Matthieu 18:20. C'est-à-dire, c'est le début de l'Église, 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom, en qui Jésus vit. Ça, c'est la terre des vivants. Jésus est vivant, il vit dans ceux qui se sont repentis et qui obéissent à ses commandements, comme le baptême, comme plein de choses. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a des lois de Jésus. Hein. C'est par la terre des vivants que Jésus sauve. C'est par la terre des vivants que Jésus guérit, éclaire et guide tous ceux qui veulent suivre son chemin. J'aimais bien la phrase d'Osborne qui disait que Jésus n'a pas d'autre main que les vôtres, n'a pas d'autre sourire que le vôtre. Sur la terre des vivants, Jésus travaille sur les intelligences humaines pour les remplir de sa lumière. Jésus, c'est vrai, est monté au ciel, il s'est assis sur son trône, c'est-à-dire qu'il règne. Sur quoi ? Sur la terre. dans l'univers entier, mais en particulier sur la Terre. Car sur la Terre, nous avons des antennes, en quelque sorte, qui sont branchées sur le ciel, sur Jésus. Nous prions, nous sommes en communion avec lui. Le quartier général de Jésus, il est sur la Terre, c'est son corps, son Église, sa vraie Église, hein, pas tout ce qui se prétend l'Église de Jésus-Christ qui est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui se conforme à la volonté écrite dans la Bible. Si dans notre Église, on fait des choses qui sont contraires à ce qui est dans la Bible, c'est pas vraiment l'Église, ou alors c'est une pauvre Église, quoi. Donc, pour retrouver Jésus, il faut s'élever jusqu'à ceux qui sont membres de son Église et communier avec eux. Avoir cette communion fraternelle, les premiers chrétiens, la Bible nous dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est formidable, l'Internet, parce que l'Internet va partout. On rentre chez les gens là où on ne pouvait pas aller, il y a des pays où c'est interdit. Mais l'Internet y va. Mais c'est aussi un danger parce que vous avez beaucoup de chrétiens, plutôt que d'aller à l'église, avoir de la communion fraternelle, ils restent chez eux, puis ils écoutent des prédications dans leur lit. c'est dommage parce que vous ratez quelque chose d'important, vous n'allez pas marcher sur la terre des vivants. Vous vous souvenez que Jésus a eu une discussion avec des pharisiens, des sadducéens, un jour, et ces religieux lui reprochaient d'avoir guéri un malade le jour du Shabbat. Ils ne changent pas, hein, les religieux, c'est toujours pareil, c'est bête comme tout. Et Jésus leur a dit, mon père travaille et moi aussi je travaille. Et le travail de Dieu, c'est tous les jours. C'est tout le temps, il ne s'arrête pas. Et Jésus continue à travailler encore aujourd'hui et il participe à toutes les activités inspirées par la lumière, inspirées par l'amour, inspirées par le sacrifice. Jésus travaille toujours. Ça signifie que chaque jour, alors que nous cherchons à nous perfectionner, à être plus efficaces, que nous agissons pour contribuer à l'avènement du royaume de Dieu, eh bien, nous habitons sur la terre des vivants. Nous marchons sur la terre des vivants. Nous sommes, chacun pour sa part, un vivant avec d'autres vivants. Nous sommes en communion avec Jésus, avec les vivants, c'est-à-dire ses disciples, avec les anges, avec toute l'équipe de Dieu, quoi. Lisons ce que Jésus avait dit à ses disciples, Jean 16, 22. Jean 16, 22. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Personne ne vous ravira votre joie. Personne. Le jour où nous rencontrons Jésus, le jour où nous nous mettons à marcher sur la terre des vivants, dans la communion fraternelle, ça devient une chose définitive. Et c'est pourquoi Jésus dit, nul ne vous ravira votre joie. Même s'il y a des chrétiens bizarres sur la terre des vivants, ils ne vont pas ravir votre joie, ils vont pas vous faire quitter. Vous êtes sur la terre des vivants, vous êtes un vainqueur, et vous apportez. Ah, il y en a qui me disent, moi je suis dans l'église, il n'y a pas d'amour. Ben, allez-y, comme ça il y en aura un peu. Vous voyez, nul ne ravira votre joie. Si vraiment vous faites ce que Jésus dit, cette joie, elle est vécue dans le cœur, elle est silencieuse comme la lumière qui est silencieuse, mais qui est là. C'est la plénitude de l'esprit parce que moi, j'ai certains dons, mais Michou en a d'autres, Philippe en a d'autres, tout le monde ici, les musiciens, ceux qui font les travaux à la cuisine ou sur le terrain. On a tous des dons. Mais la plénitude n'existe que quand le corps est réuni, quand on est sur la terre des vivants, avec les vivants, en communion avec les vivants. Et cette plénitude, elle est indestructible, parce que Jésus veille dessus. Alors vous me direz, ah bon, alors Jésus veille pas sur moi parce que je suis tout seul. Bien sûr, Jésus veille sur vous, il vous aime. Mais ça lui fait de la peine de voir que vous n'avez pas compris qu'il est absolument indispensable de marcher sur la terre des vivants, d'avoir la communion avec le corps de Christ. Tu es peut-être un genou dans le corps de Christ, mais tu n'as pas le droit de dire « Non, non, moi je n'ai pas de communion avec le coude parce que on n'a pas grand-chose en commun. Non, moi ça m'embête. Je suis genou et puis je ne peux pas parler comme la bouche qui parle tout le temps. Moi je veux pouvoir parler, je suis qu'un genou, alors je ne veux pas fréquenter ces gens. Ils sont pas comme moi. Non, tu dois. Tu fais partie du corps. T'as jamais vu. Et tu t'imagines tout d'un coup que ton nez fout le camp et dit « Ah ben non, mais j'en ai marre d'être au milieu de la figure. Là, je veux plus. » Il faut être cohérent, mes frères et sœurs. Il faut être biblique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.